Concernant les salutations, quand on rentre dans un temple, d'abord, on peut avoir un zen, simplement un zen, du fait qu'on s'est engagé dans les trois types de vœux. Quand on a fait une cérémonie de refuge avec un officiant, quel qu'il soit, on a pris refuge dans les trois joyaux et éventuellement dans les trois racines. De fait, on a les vœux racines, les vœux génériques, on va dire, des trois types. Les vœux de libération individuelle, parce que dans la cérémonie, on nous demande de cesser de nuire aux êtres, c'est couper toute justification de nuire aux êtres, tout prétexte. Et donc on a les vœux génériques, c'est largement suffisant comme vœux du pratika moksha, c'est les vœux de libération individuelle, parce que ces vertus, on sera seul bénéficiaire, au sens karmique, bien sûr, du terme. Ensuite, on nous demande de prendre refuge jusqu'à l'éveil, pour ensuite pouvoir aider les êtres. Et là, c'est le vœu racine du Mahayana, la motivation, pour qui, pourquoi s'éveiller, pour se mettre à disposition des êtres. Ensuite, à travers les vœux, les trois racines, le refuge des trois racines, quand il y a lieu de recevoir des initiations, des commentaires du Vajrayana, que ce soit au niveau du Tantra, des yogas, ou des voies ultimes comme le Sahaja Mahamudra, eh bien, on a déjà les vœux aux trois racines, le Lama racine, le Yidam racine, et Daka, Dakini, protecteur racine. Donc dès lors, on peut porter un zen, ça peut largement suffire. Alors, c'est un zen qu'on porte exclusivement dans le temple, quand on a ses vœux, et on dépose le zen dans le temple, un zen rouge bordeaux. Et quand on fait les salutations dans le temple, on prend ce zen, on le porte. En portant ce zen, c'est affirmer au monde les vœux auxquels on s'est engagé. Donc l'habit est très important, parce qu'il représente nos engagements. C'est une aide, il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Tout est une aide dans le Vajrayana, dans le bouddhisme, c'est des protocoles qui servent à nous mettre dans des conditions d'attention, de vigilance. Voilà. Et en mettant le zen, eh ben, on s'expose aux autres et on expose nos promesses qu'on s'est fait à nous-mêmes. Or, des fois, les autres aiment prendre à défaut. Il y a des gens qui aiment bien prendre à défaut. Ben, il faut prendre ce risque. Une fois qu'on rentre dans le temple et qu'on porte ce zen, donc, on fait les salutations. Alors, quand ce n'est pas un enseignement, on fait salutations devant un autel, même si minimum, et les objets de l'autel représentent les trois joyaux. Bien sûr qu'on ne se prosterne pas devant une statue en tant que telle, ou des tankas en tant que telle, ce serait de l'idolâtrie, du fétichisme, mais on se sert de représentations pour nous rappeler ce que sont ces trois joyaux. Et donc, quand on fait une salutation devant un autel, ben, il faut se rappeler, on se remémore ces représentations et les vœux qu'on a pris à travers les vœux dus aux trois joyaux, ce qui doit être abandonné, ce qui doit être pratiqué. Les statues représentent le corps de Bouddha. Il y a des livres, les livres du Dharma représentent la parole, et l'esprit est représenté sous forme symbolique, un cristal, des tsatsas, voilà, ou des fois des tormas universels, ou des tormas représentant des divinités. Ensuite, s'il y a enseignement, et surtout si c'est un enseignement du Vajrayana, donné par un lama. Mais il n'y a pas d'élite pour enseigner, un moine, un laïc pour enseigner. L'habitation propre à ce qu'on appelle un lama, c'est qu'il peut être un lopun, c'est un officiant témoin de la prise des vœux du Vajrayana. Mais sinon, en soi, il n'y a pas d'élite pour enseigner. Si il y a un enseignant, ben l'enseignant se prosterne avant tout le monde, parce que lui, il va travailler son siège, et l'attitude pour pouvoir se mettre sur le siège, c'est prendre la place de Bouddha et pouvoir tourner le dos à l'autel. Donc ça, c'est une responsabilité. C'est pas confortable d'enseigner. On aime enseigner, ça c'est clair. Quand on enseigne, moi j'ai appris à aimer enseigner. Je n'étais pas destiné à ça, j'étais ami, tranquille. Je dis souvent, quand on est mal à l'aise, il faut mieux l'être, mal à l'aise. C'est une question d'honnêteté. Mais après, il faut mettre de côté ce malaise et assumer. Parce que souvent, on nous a invités, aussitôt Rinpoche, comme Rinpoche, puis les lamas que j'ai rencontrés, il faut assumer quelque part. Quand Rinpoché, une fois, avait dit dans un grand centre, une usine à Lama, en plaisantant, je dis ça, il dit, mais à quoi ça sert de faire des retraites si c'est pas pour enseigner? Et après, il y a les capacités de chacun, voilà. Mais il y a un moment, il faut assumer, surtout si on est invité à le faire. Et donc, le Lama, comme tout le monde, il fait son travail quand il fait une prostration, une salutation, je préfère dire, il salue son siège. Et nous-mêmes, quand on pratique chez soi, on a son siège, on doit faire sa salutation à son siège. C'est-à-dire, il deviendra le siège Vajra, dans Jeden, c'est-à-dire le siège où s'est assis lui-même Sakyamuni. Alors, c'est un siège d'herbe, mais une fois qu'il s'est assis et il s'est éveillé, ça devient un Dorjeden, c'est un siège de son immuabilité. Il a obtenu la nature immuable de la nature d'esprit. C'est en cela qu'on appelle siège Vajra, bien sûr. Et surtout, quand il a décidé de s'asseoir pour l'éveil, il a eu une détermination, une résolution. Je m'assois là, je ne bougerai pas tant que je ne suis pas éveillé. Donc ça aussi, c'est une attitude Vajra, de résolution immuable, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les apparences qui apparaissent à l'esprit, cette force de résolution qui est nécessaire. Et donc, on se rappelle cela, à l'exemple de Sakyamuni et des autres qui se sont éveillés, cette résolution. Et c'est cette résolution qui fait qu'on fait une salutation. C'est-à-dire, cette salutation est la preuve qu'on est résolu. Donc le lama lui-même prépare son siège, se prépare dans son attitude aussi à donner un enseignement. On devrait s'émaner quelque chose d'autre que sa propre personne. Tant bien que mal, voilà. Surtout quand on doit donner une initiation, on génère la divinité, tant bien que mal aussi. Ça, hein. Enfin, on n'est pas des machines non plus, comme disait Sito Rinpoché, on n'est pas des machines à méditer. Hein. Des fois on est fatigué, des fois pas, voilà. Des fois on est au top. Voilà. On est tous de bonne volonté. Et le lama fait aussi son travail, donc il fait des salutations. C'est-à-dire, il se remet dans l'idée de la résolution à l'éveil. Quand on fait une session, c'est pareil. On se remet à l'idée d'une résolution à l'éveil. On ne dit pas, tiens, je fais ma pratique. Non, c'est ma dernière pratique. Une fois pour toutes, je m'assois une fois pour toutes. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on fait des progrès aussi. Si on se dit, bon, aujourd'hui, je fais ma petite pratique, et puis demain, puis après-demain, bah, vous ne créez pas d'échéance à l'éveil. On se fait un devoir religieux de pratiquer. Ça n'a aucun intérêt. Donc la force de la résolution... Écoutez, je vais m'éveiller, j'ai autre chose à faire après. Vous voyez, c'est ça la force de la résolution. C'est ça qui fait Vajra, le Vajrana. C'est un véhicule du fruit. C'est ça qui va faire réduire le chemin. Donc c'est une force de résolution qui nous fait une salutation. Ce n'est pas une prosternation. Ou simplement, on joue le modeste, on se prosterne devant quelque chose. Non, ça c'est faux. Ça c'est de la discrimination. Une force de résolution. Ensuite, avec le zen, on prend le zen, alors on joint les mains, corps, parole, esprit, on fait une formule, quelle qu'elle soit, ça peut être simplement, ici et maintenant, je me dois de m'éveiller. Ça peut suffire. Cette formule, on n'a pas besoin de la réciter, le mieux c'est de l'incarner, de générer un facteur mental, comme on dit, générer une attitude, un sentiment fort de présence. Donc on joint les mains, corps, parole, esprit, on s'engage dans cette résolution, corps, parole, esprit. On ouvre le zen, c'est-à-dire on admet nos fautes, nos erreurs, je préfère dire erreur que faute, hein, il y a une petite nuance. Alors, on admet nos erreurs, je fais une mise à zéro, une mise au point, j'ouvre mon zen, et on pose les 5 points au sol, les 2 genoux, les 2 mains, et le front représente... les 5 agrégats. C'est-à-dire, tous nos systèmes cognitifs, tous nos processus cognitifs, toutes nos pensées, toutes nos consciences, voilà, toutes nos traites de conscience, on le remet à la base, tout, et dans ce moment-là, on renonce à toute saisie. La saisie sur les 5 agrégats. C'est une sorte de remise à zéro du disque dur. C'est bien d'avoir des cérémonies comme ça, un avant, un après, une remise à zéro. Par exemple, quand on rompt les vœux de pratiquer Mocha, de libération individuelle, on fait une cérémonie, ça s'appelle Sojong, c'est un rafraîchissement. En retraite, on faisait la pleine lune, voilà, etc. Et voilà, on fait un rafraîchissement, et ça y est, c'est acquis. On ne regarde pas les fautes des autres, chacun fait son travail d'une remise à zéro. Bon, j'ai fait ça, je regrette, je ne recommence plus. C'est une cérémonie sur la base du pratikamocha. Ici, c'est une cérémonie sur la base de la vue de l'esprit. Donc, les cinq points qu'on met au sol, c'est reprendre à zéro l'activité des cinq agrégats, cinq processus cognitifs, et essayer de ne pas émettre nos saisies, la soif et l'ignorance. Et on ne reste pas au sol. Il ne faut pas s'apitoyer. On touche le front et on se relève tout de suite. Et on endosse à nouveau les engagements. C'est ça le plus important de la salutation, c'est se relever. Pour se relever, il faut se baisser. Mais beaucoup de gens mettent l'importance sur le fait de se baisser. Vous voyez, mais avec un sentiment, oui, je suis rien, je suis un machin, etc. C'est pas une prosternation. Alors, sous-entendu, certains même iront jusqu'à une soumission, une allégeance à une personne. Ça n'a rien à voir. C'est un aveu de soi. On ouvre le zen, on s'avoue. Voilà, oui, j'étais dans les erreurs. Et on recommence à zéro. Donc le lama le fait aussi, il travaille, il médite, hein, il pratique. Et au moment de se relever, on se dit, bon, c'est fait, le passé est passé. Dans l'instant présent, je me réaffirme, j'assume, un travail d'assurance, on se redresse, on a une dignité. Et en se redressant même, comme la prestation en yoga, hein, le yoga la prestation, ben, c'est un moment d'inspiration. Il y a des mécanismes comme ça de yoga. Expiration, on a expulsé des choses, des fautes. Il y a des soulagements. Mais après, quand on se relève, il y a eu des décloisonnements, des choses. On gagne, on habite mieux notre être et notre corps, et ainsi de suite. Donc quand on se relève, eh bien, on réendosse le zen, c'est-à-dire on réendosse les engagements qu'on a pris. Là, on peut se dire, je peux les réendosser, parce que j'ai fait aveu, confession, j'ai admis mes erreurs. Et avec, bien sûr, une sincérité, quoi. On n'est pas toujours sincère. On n'est pas toujours au top de... Voilà, des fois, on n'est pas présent, on fait prestation, on regarde le temple, on rigole, salut toi, voilà. Bon, il faudrait mieux être sincère. Enfin, très attentif au moins. L'attention aide à être sincère. Ou se voir de ne pas être sincère. C'est aussi être sincère. Donc l'attention, la vigilance. Mais ce qui est important, c'est la force où on va rendosser. Et on recommence. Corps, parole, esprit. Trois fois. Une fois, on se positionne corporellement parlant. Après, on pense à ce qu'on dit. Et après, on incarne ce qu'on pense. Et corps, parole, esprit. Quand c'est un enseignant du Vajrayana, on ne se prosterne pas devant l'enseignant. C'est risqué. Vous ne savez pas du tout le niveau de l'enseignant. Puis il n'y a pas lieu de se prosterner devant une personne hein, dans le bouddhisme. Sakyamuni a refusé d'être considéré comme un maître, même un directeur de communauté. Donc on ne se prosterne pas devant une personne en tant que telle. Comme le propose Sakyamuni dans les quatre garanties, on se réfère à l'enseignement et non pas à l'enseignant. Se référer dans le sens que ce n'est pas le CV de la personne qui fait quelque chose, c'est l'enseignement qui est nécessaire pour nous. C'est l'enseignement qui va nous donner des éléments d'expérience et d'éveil. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger, mépriser l'enseignant non plus, hein, bien sûr. Un minimum de respect, voilà, etc. Donc, l'exercice qu'on fait, là, que je vous ai expliqué, s'il y a un enseignant, on utilise l'enseignant comme témoin. Ça renforce notre attention. Et l'enseignant ne se voit pas être... idéalisé, etc. Ça fout mal à l'aise. Il espère que les gens font ce qu'ils ont à faire. C'est désobligeant si quelqu'un se prosterne devant soi-même. Et donc, on se sert de l'autel comme témoin, les trois joyaux, en mémoire de Sakyamuni, ne serait-ce qu'en mémoire et en gratitude des enseignements donnés par Sakyamuni, ben, on refait ses salutations. C'est-à-dire, on purifie les fautes, les erreurs, et on réendosse nos aspirations, notre résolution. Ne serait-ce que par respect, par mémoire. Quand il y a un enseignant, on fait la même chose, on se sert de l'enseignant comme un témoin. Même si c'est un moine, ou non-moine, on se sert de la personne comme représentant des trois joyaux. C'est un membre de la Sangha, et il représente les trois joyaux. On focalise sur la personne, on oublie l'autel même. Un petit clin d'œil à l'hôtel, si vous voulez, ce que représente, mais on focalise sur la personne. C'est la personne qui focalise notre attention parce qu'elle va donner l'enseignement. Si c'est un lama, et tout particulièrement s'il y a un enseignement du Vajrayana, qui inclut le Tantra, ou les yogas, ou le Mahamudra, Sahaja, Dzogchen, etc. Là, on peut dire qu'on est dans le véhicule du fruit, le Vajrayana. Dans ce cas-là, on se sert des engagements dus aux trois racines, et tout particulièrement le lama racine. Donc on se sert de la personne qu'on appelle le lama de la lignée pour s'en servir comme témoin et nous rappeler qu'il va être un lien à notre nature fondamentale qu'on appelle le lama. Le lien, c'est racine. On a traduit lama racine, c'est un lien. Si on se sert du lama de la lignée comme un lien, alors tout ce qu'il va dire, même signifié avec des mains ou pendant les initiations, tout ça, tout ce qui est signifié par le lama de la lignée, il faut être en écoute, en réceptivité, que ça fait lien à notre nature fondamentale. C'est ce qu'on appelle le lama racine. Donc, le lama racine, c'est une vue qu'on met sur un enseignant de la lignée en train d'enseigner le Vajrayana. Et là, il faut avoir l'habilitation d'être lama, c'est-à-dire d'être un officiant et d'un témoin pour l'autre. Bien sûr qu'on peut être, on peut ne pas être lama et écrire un livre sur les tantras, ça arrive, hein. Il y a plein de gens qui ne sont pas lamas, qui donnent leur avis sur les tantras, il n'y a pas de problème. Mais ils ne sont pas habilités à permettre à l'autre d'être utilisé comme témoin des samayas, des engagements. Vous voyez, c'est ça la différence. Après, ce n'est pas une question de compétence. Il peut y avoir quelqu'un qui a cette habilitation, qu'on appelle lama, et qui ne connaît rien des tantras. Mais en général, on a une époque suffisamment honnête en France, en Occident, où ces lamas, ben, ils sont les premiers à dire « j'aime pas enseigner les tantras, il n'y a pas de... » Mais vous, vous pouvez vous en servir comme témoin. Ça ne gêne rien. Prendre refuge avec un lama, c'est comme sortir un arbre d'une forêt, vous vous en servez comme témoin de votre résolution à l'aspiration à l'éveil. D'accord? Ce n'est pas lui qui va vous aider à vous aspirer à l'éveil. Vous en servez comme témoin, et en ayant un témoin, ça aide pour son engagement. Ça fait un peu miroir, on va dire. Et puis après, vous rentrez l'arbre dans la forêt, et tous les autres arbres sont à votre disposition, parce que si vous prenez un autre arbre, vous sortez de la forêt, il est lama, vous lui dites, je veux m'éveiller. Il vous dira, vous avez pris refuge? Oui, bon, c'est bon. Voilà des éléments du Vajrayana pour vous éveiller. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que tous les lamas sont au devoir de vous donner des enseignements du Vajrayana si vous avez pris refuge avec un lama. Si vous avez fait une fois une cérémonie. Et Kenpo Sutri a été très clair une fois. C'était une cérémonie de refuge. Il veut prendre refuge. Puis il y avait des personnes. Il dit, mais je vous ai déjà vu, vous avez déjà pris refuge. Il dit non, on ne fait qu'une seule cérémonie. Respectez les lamas qui ont fait la cérémonie, quoi. Et souvent, les personnes reprennent pour avoir un nouveau nom. Enfin, c'est très rare, hein. Enfin, j'en ai vu très rare, mais ça arrive. Pour avoir un nouveau nom. Ou avoir dit, j'ai pris refuge avec ce Rinpoché. Vous voyez, c'est qu'ils n'ont pas compris. La force du refuge, c'est de notre ressort. Donc, les préinstallations, ben, c'est quand il y a un enseignement du Vajrayana, c'est pour récapituler nos engagements, ne serait-ce qu'au lama racine. Puis. Yidam racine au moment d'une initiation, hein, aux engagements du Yidam racine et d'Aka, d'Akini racine. Mais on ne se prosterne pas devant une personne. Ce n'est pas une prosternation, c'est une remise à niveau de nos engagements à chaque fois.